Cristina Peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de ces chroniques hebdomadaires dédiées au cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et rediffusée les samedis à 12h30 sur CFM Radio, la radio de proximité, que vous êtes toujours plus nombreux à écouter et vous avez bien raison. Alors, un cheval, un mot, Jean-Yves. Aujourd'hui, on va parler de la robe. Alors, ce mot est emprunté vers le milieu du XIIe siècle au germanique qui signifie en réalité butin, rapine. Il est à l'origine de notre verbe dérober, que l'on retrouve en anglais sous la forme to rob, voler, ou encore robber, un voleur, mais également dans l'ancien provençal, raoba, dans le sens de butin. Ce sens de butin-pillage est encore fréquemment employé en français jusqu'au XVIe siècle dans l'expression en robe. Nous dirions aujourd'hui à la dérobée, autrement dit en cachette, mais également.
La couleur du cheval.
Alors on va y arriver.
Beaucoup plus.
Voilà, mais le mot. Donc en cachette, mais également de bonnes robes. Alors là, ça va t'intéresser. Hein. Donc de bonnes robes, c'est-à-dire de bonnes prises, Jean-Yves, en parlant d'une femme que l'on a su séduire.
Oh là. Ah oui.
Alors vers le milieu du XVIIe siècle, c'est vers le milieu simplement du XVIIe siècle que le mot robe prend par analogie le sens de pelage de certains animaux, particulièrement le cheval et les bovins. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Mais moi j'ai toujours appris que pour reconnaître les couleurs des chevaux, il y avait des mots-clés, et ces mots-clés c'était bang, bis, gal, r, p. D'abord les robes simples, la robe alezan, noire, café au lait. Ensuite, les robes composées, où le crin est toujours noir. B, Isabelle sourit. Après, vous avez trois couleurs dans la robe, Rouen. Et puis, les chevaux pis alezan, pis noir, pis gris, les chevaux indiens, qu'on retrouve un peu partout, qui ont été conservés par les Indiens, d'ailleurs, ces couleurs-là.
Alors, tu peux nous rappeler le petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir de ces couleurs de robe,
hein? Bam, bis, gal, r, p.
Voilà. Bam, bis, gal, r, p. Donc, tout le monde a bien retenu.
C'est avec ça, on a toutes les couleurs des robes des chevaux dans le monde entier.
Voilà, ben c'est très
et
bien.
Et pas un cheval n'a la même couleur de robe. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Ah oui, chaque cheval, individuellement, a une nuance différente.
Tout à fait.
D'accord. Donc, si on veut faire un attelage, par exemple, c'est difficile de trouver deux chevaux alezans de la même couleur, par
Tout
exemple.
Tout à fait. Il faut trouver deux chevaux de même famille, mais qui ont encore une différence.
D'accord. Alors, la semaine dernière, nous avons vu comment l'administration des haras, créée par Colbert le 17 octobre 1665, va connaître, au gré des régimes politiques qui se succèdent, des orientations faites d'avancées et de larges retours en arrière, peu propices à l'amélioration de la race chevaline, qui était pourtant le cœur de sa mission. Alors, tour à tour, les pouvoirs politiques organisent des dépôts de juments et des talons, comme au haras du Pin et de Pompadour, pour les démembrer quelques années plus tard et s'en remettre aux éleveurs privés qui, eux, privilégient logiquement la production de chevaux lourds, plus rentables, pour répondre aux besoins de l'agriculture et du trait. Alors, il faut attendre l'année 1834 pour que l'administration des haras reprenne une politique d'amélioration des différentes races chevalines par le cheval de pur sang anglais et secondé dans cette voie par le Jockey Club qui vient de se fonder. La jumenterie de Pompadour est rétablie et celle du haras du Pin augmente ses effectifs pour disposer rapidement d'une élite de reproductrices de pur sang anglais. Alors en 1841, l'administration des haras considère que sa mission d'élevage du pur sang anglais est suffisamment développée et peut désormais être confiée à l'élevage privé. Le haras de Rosières dans le département de la Somme est supprimé, la jumenterie du Pin réduite à 13 reproductrices et celle de Pompadour à 30, donc on est en 1841. Alors les raisons de ce désengagement ne sont pas fortuites, évidemment. D'une part, les économies budgétaires réalisées par ces diminutions de juments permettent d'augmenter le nombre des étalons de l'État, particulièrement par l'importation de pur sang arabe syrien dont le prix reste inaccessible à l'élevage privé. Mais la raison principale de ce changement de politique est de permettre d'entretenir un réservoir d'étalons orientaux dont on augmente la taille et qui contribueront à la création du pur sang anglo-arabe comme améliorateur des chevaux du midi de la France. Alors nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission après une pause musicale. Les Doors, Break on Thaw, The Other Side. Tchou.
You know the day and night. Divides a day, try to run.
our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Même année, 1841, est instituée l'école des haras chargée de former des officiers qui recevront un enseignement basé sur le savoir-faire et l'expérience des haras en matière d'élevage et d'amélioration des différentes races de chevaux. Cinq ans plus tard, en 1846, sont créées les courses de trot qui seront à l'origine de la race du trotteur français. Mais on le voit bien, la politique des haras s'intéresse en priorité aux chevaux de sport, pur sang anglais galopeurs et sauteurs pour les courses de plat et de steeple, trotteur pour les courses de trot montées et attelées. Cette politique est encore accentuée avec l'arrivée de l'automobile qui condamne à brève échéance le cheval de trait. Alors la production de ce dernier périclite rapidement et tous les efforts des éleveurs comme de l'administration des haras se rapportent sur le cheval de selle. Alors l'armée est particulièrement attentive à cette nouvelle orientation pour satisfaire les besoins de sa remonte. Depuis des années, elle se plaint de ne disposer que de chevaux de second ordre, pour ainsi dire des rebuts de course, de galop et de trot, et de ne trouver qu'occasionnellement un bon cheval de selle.
Mais c'est là que les haras ont fait fausse route un peu, et ne voulant pas entretenir et développer le cheval de loisir, au profit du cheval de spécialiste et du cheval de compétition.
Absolument Jean-Yves, c'est tout à fait cela. Alors l'armée réclame un type de cheval spécial pour elle, et entame une polémique violente contre les haras qu'elle accuse de se désintéresser du cheval de guerre, et d'accorder tous ses encouragements au cheval de commerce. Mais à la décharge des haras, l'armée mettra plus de 20 ans à définir sa doctrine. Donc quand même 20 ans pour savoir quel cheval elle veut exactement. Alors il faut dire que le cahier des charges d'un cheval de guerre, à l'époque, est impressionnant. Il doit marcher vite, très longtemps et agréablement, ce sont dans les manuels pour les officiers, donc et agréablement sous un très gros poids entre 120 et 150 kilos.
Voilà pourquoi il fallait un cheval inscrit dans un carré.
Et inscrit dans
un
carré.
Très court de rein, très court de dos, avec un dos solide et quatre bons membres.
Et c'est pour ça, effectivement, que le pur sang anglais n'était pas du tout...
Absolument pas.
Alors, la première des qualités du cheval de guerre, la première de ses qualités, est un équilibre naturel aussi parfait que possible, afin que son effort journalier réparti également sur tout son organisme ne le ruine prématurément. Il faut qu'il dure. Il faut à ce cheval des allures spéciales pour franchir le maximum de terrain avec le minimum d'effort. Exclure donc les allures relevées pour privilégier les allures coulantes, étendues et silencieuses. En un mot, l'armée veut un cheval étoffé, puissant, bien équilibré mentalement et physiquement, et ayant du sang qui lui permettra des allures rapides et allongées et l'aptitude à galoper vite et longtemps en terrain varié.
C'est donc là que le barbe reprend ses lettres de noblesse.
C'est là où le barbe prend ses lettres de noblesse. En réalité, l'armée optera pour le demi-sang, en fait, de ce qu'on appelle maintenant le sel français, quoi. À cette époque-là, hein, voilà.
Oui, mais ils n'ont pas la même assimilation que les autres, alors que le barbe s'enrichit et grossit dans tous les terrains et dans tous les endroits, le sel français est plus délicat, donc une fourniration un peu plus spéciale.
Voilà, c'est cela, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, ça a été plutôt les chevaux du nord de la France qui ont été privilégiés par la remonte militaire que les chevaux du midi. Ça, c'est vrai.
Mais ça a toujours été un peu comme ça, l'équitation. Paris a décidé pour le midi, et c'est pas du tout la même mentalité.
C'est pas du tout la même mentalité. C'est vrai qu'on, par rapport à ce fameux cahier des charges, comme on dirait maintenant, du cheval de guerre, on peut imaginer effectivement qu'un barbe à taille un petit peu élevée, enfin, par sa sobriété, par son équilibre, aurait fait peut-être c'est beaucoup mieux la faire qu'un cheval
de demi-sang. C'est ce qu'on a fait en dressage, où on a adopté le règlement allemand avec les grands hanovriens et les grands chevaux qui ont beaucoup d'amplitude, au détriment du petit cheval court dont on voulait, qu'on recherchait dans le midi de la France. Et si on avait adopté une technique un peu spéciale, ben ce cheval aurait beaucoup plus de popularité maintenant.
Voilà. Ceci dit, les Espagnols ont augmenté la taille de leurs chevaux barbes, là, qui même certains, à mon goût, sont exagérément grands.
Mais en fait, ce sont de vrais chevaux de loisir.
Ce sont de vrais chevaux de loisir, absolument. Alors, le messager du cheval a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Estelle de Noblins. Voilà.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous, là, aujourd'hui. Et tu es une cavalière.
Oui, oui.
Et d'une famille de cavaliers.
Oui, passionné. Voilà.
Une passionnée. Une jeune passionnée. Ça, c'est intéressant, les jeunes passionnés.
Alors, dans ta famille, tout le monde monte à cheval ou...
ma mère monte à cheval, c'est elle qui m'a mis, moi, ma sœur et mon frère dans l'équitation. Mon frère a arrêté, ma sœur aussi, ils font des études maintenant, mais moi, je continue. Voilà.
Alors, est-ce que je serais impoli si je te demande ton âge ?
Alors, j'ai 18 ans.
18 ans, d'accord. Et ça fait longtemps que tu montes ?
Depuis que je suis toute petite, vers 5-6 ans. Alors au début, on a commencé par la voltige, parce que ça met les jeunes cavaliers bien dans le cheval.
Et puis c'est la prière du cheval, c'est important la voltige. Voilà. C'est la préparation de son corps, la maîtrise de son corps, donc la voltige c'est primordial.
Voilà, et après on a fait un peu de poney club, un peu de club normal. Après, je suis passée par l'endurance, j'ai monté chez Jean-Yves.
D'accord. Alors, tu as fait de l'endurance, des épreuves d'endurance officielles. Tu as concouru en quelque sorte?
Oui, mais pas sur beaucoup. Hein. J'ai fait 20 et 30 kilomètres.
Ah ben, c'est déjà pas mal. C'est quand même une jolie distance. Tu as un cheval à toi ou...
Elle a une saine ambition surtout. Alors ça, je tiens à le signaler très 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 fort. Elle a une saine ambition. Elle a des chevaux aussi. Personnel, oui.
Tu as des chevaux personnels, voilà.
Oui, j'ai un cheval à moi, une poulinière et un petit poulain.
Ouais. Et un petit poulain, et quelle race hein?
Des barbes et un arabe.
Ah bah Jean-Yves va être content, là, il va ronronner, Jean-Yves. Des barbes, c'est impeccable. Et le poulain, il est tout neuf?
Oui, voilà, un fils de barbe, hein, pareil.
D'accord. Alors, Jean-Yves a déjà vendu un peu la mèche. Il semblerait que tu aies des projets d'avenir, Estelle, et qui ne sont pas banals, en quelque sorte.
Le
projet noble.
Voilà,
moi, si j'avais ma carrière à refaire, eh bien, c'est vers là que je me tournerais. Parce que je pense que c'est tout à fait précis et prédestiné pour une carrière équestre.
Oui, mais tu sais, il y a un proverbe arabe qui dit « Le cheval ne remet jamais son sabot dans l'empreinte de son sabot. » Donc on ne repasse jamais par le même endroit.
Oh, c'est pas évident, ça.
Ah, bon, ben, pour une fois que je te cite un poème arabe, alors franchement...
Non, c'est pas évident, ça. Parce que le cheval est un animal qui est radiesthésiste et qui revient toujours vers la source ou vers l'endroit qu'il recherche. Donc... on pourrait peut-être trouver le contraire.
On pourrait trouver le contraire. Alors, Estelle, donc, ces fameux projets, alors si tu peux nous les dévoiler un peu.
Moi, je voudrais être garde républicain, à cheval, évidemment. Et voilà, je vais m'y diriger, là.
Et alors, la formation, comment on fait pour entrer à la garde républicaine? Quelles sont les conditions, en fait hein?
Alors, en premier, il faut être gendarme. On peut y rentrer en tant qu'officier, mais moi je vais plutôt me diriger vers sous-officier de gendarmerie parce que vous savez les officiers ne restent pas en place, enfin ils changent de
ils tournent oui
ils tournent des casernes et tout ça et les sous-officiers non voilà donc moi je voudrais atterrir là-bas et rester si possible.
Oui, mais tu es tellement bonne que de toute façon, par la promotion, tu deviendras officier. Enfin, ça, j'imagine. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Yves?
Il y a du travail. Il y a une recherche personnelle à faire. Et ça, c'est important. Hein, il faut s'y mettre.
Oui. Ouais. Et alors donc c'est une école, donc tu fais l'école de gendarmerie et ensuite tu sors avec ton grade de sous-officier et là tu es affecté dans un. Alors est-ce que tu as une idée effectivement des affectations, parce que il me semble qu'il y a deux endroits fixes où est la garde républicaine avec ses chevaux, c'est-à-dire c'est Chambord, le parc de Chambord, et c'est Fontainebleau, je crois.
Et puis il y a le port de Sully, là aussi, la caserne, voilà. La caserne à Paris, là.
Alors, bon, moi j'avais lu, ils ont trois manèges à Paris, dont un au centre de Paris, je ne me rappelle plus exactement où.
C'est pas à l'école militaire, hein, parce que dans le temps il y avait un manège à l'école militaire.
Hein. Alors l'école militaire, non, là c'est différent, mais ils ont donc un au centre de Paris, c'est là où sont les Alzans. Et la reprise des 12 et la reprise de dressage, voilà. Et ils ont deux autres manèges, un à Chambord, enfin des autres manèges qui surveillent les parcs et tout ça, qui sont avec les chevaux B, voilà.
D'accord. Donc ils sont regroupés aussi par robe. Et ben c'est ouais. Vraiment la journée de la robe, enfin si je puis dire. Formidable. Alors le dicton du jour, Jean-Yves. Cheval vaut plus que richesse. Qu'est-ce que cela t'inspire? Et Estelle aussi, peut-être que ça t'inspire quelque chose.
Mais c'est vrai. Toutes les religions ont parlé du cheval comme un moyen d'élévation, comme un moyen de transport, d'abord physique et mental. Et puis, des rois. Et je crois que, on l'a cité tout à l'heure, on dit mon royaume pour un cheval. Donc, c'était quelque chose d'important, un cheval, à une époque, pour tout, d'ailleurs. Et
jusqu'à une période relativement récente, en fait.
Tout à fait, oui.
En Europe, en tout cas, bien sûr. Et dans pas mal de pays du monde, le cheval est encore ce qu'il était chez nous il y a 70 ans.
Mais bien sûr, en Amérique, on était condamné à mort quand on volait un cheval.
Ah oui, tout à fait. Oui, il valait mieux couper son voisin en morceaux que de voler un cheval, ça c'est clair. Alors justement, je te tiens, je ne te lâche plus, Jean-Yves, la reine d'opposition. Alors tu m'as dit que tu n'étais pas tellement pour, mais est-ce que tu pourrais déjà nous dire ce que c'est qu'une reine d'opposition?
Voilà, pour moi, il y a deux effets de reine valables qui ne prennent pas sur l'impulsion et qui ne prennent pas sur l'opposition, qui ne prennent pas l'opposition, c'est l'effet d'ouverture et l'effet d'appui. Parce que il est difficile d'opposer et d'être avec. Donc, il faut être avec le cheval et opposer, c'est pas très bon. Parce que quand on oppose, on fait un petit effet d'ensemble qui est on retient et on pousse à la fois. Donc, c'est pas très bon. Il faut, quand on pousse avec ses jambes, c'est laisser aller devant avec ses mains. Alors, opposer, c'est retenir, c'est empêcher. Alors que tout le contraire, c'est d'essayer d'aller et de faire le geste en accord avec le cheval.
Donc, si on comprend bien, c'est pas vraiment une reine un effet de reine que tu préconises en réalité.
Ben, disons sans trop d'excès, quoi. Il faut tempérer.
Il faut le tempérer, d'accord. Bon, mais enfin, si on peut éviter, c'est pas plus mal hein, en réalité. Voilà, tout à fait, d'accord. Alors on ouvre la boutique, pour celles et ceux qui voudraient mieux connaître la cavalerie et le cheval de guerre, le messager du cheval vous recommande la lecture du très beau livre de Hervé de Weck, La cavalerie à travers les âges, et c'est chez Edita Villot. Le poney d'Élise, alors tu sais qu'Élise, qu'on commence à bien connaître, et son poney lutin bien sûr, alors a entendu dire qu'il pouvait y avoir des poneys gentils et des poneys méchants.
D'ailleurs, Élise a été dimanche au poney club de Connemara, chez Monsieur Combe, où il y avait foule, et Élise était là.
Alors j'ai pas vu Élise, j'ai pas vu lutin non plus, mais alors avec lutin, donc elle a l'impression d'avoir les deux à la fois, c'est-à-dire à la fois un poney gentil et un poney méchant. Alors elle te dit, il y a 15 jours, lutin a fait une super reprise, il était calme et sérieuse, alors que la semaine dernière, il a été horrible, impossible d'en tirer quoi que ce soit. En deux mots, qu'est-ce que tu peux lui dire?
Les chevaux sont comme les gens, il y a des jours où ils sont en forme, où ils sont bien, ils sont contents d'être, et puis il y a des jours où ils ont un peu mal, où ils sont un peu fatigués, et puis ils ont... Voilà, c'est comme ça. Alors ça dépend du temps, ça dépend de la nourriture, ça dépend de plein de choses.
Non mais j'ai eu peur parce qu'Élise m'a dit, j'ai l'impression qu'il me fait tourner en bourrique.
Non, alors, les chevaux sont comme les gens, c'est jamais de la mauvaise volonté. Il y a toujours une carence quelque part qui est due à un mal quelconque, donc il faut essayer de trouver la...
Donc pour Élise, la patience, et puis recommencer.
Ce qu'il faut, c'est qu'il ait
calmement.
Le moral, c'est l'envie de communiquer, l'envie de faire des choses. Et ça, c'est la première des choses à demander et à respecter.
Alors c'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même adresse, pour une nouvelle chronique. Alors CFM Rodez 107.9 et CFM Villefranche de Rouergue 90.2. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le messager du cheval. À la semaine prochaine. Merci Estelle. Merci de votre fidélité pour nos auditeurs et un grand bravo à nos chevaux.
Cammina peregrino, y vaya te con Dios. Bon chemin pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage et de l'amour dans nos bagages. Parmi les chemins sous le ciel, nous irons jusqu'à Compostelle. Un camino, peregrino, bon chemin, pèlerin. Marche à pied ou à cheval, telle est notre quête, telle notre graal. Malgré le vent, malgré l'orage, offrir notre joie en partage. Cammina peregrino, y vaya te con Dios. Bon chemin pèlerin, Dieu te donne la main. Parmi les chemins sous le ciel, nous irons jusqu'à Compostelle. Fiers chevaliers sur leurs coursiers et compagnons à la pied.